Alors, c'est...
C'est ça.
Le moment du football, pour les nouilles.
Et vous tous.
Avec le meilleur de la business. Vas-y, mon Ray.
Les nouilles et les nuls, je vous salue. Une équipe qui n'a pas perdu encore dans la NFL, soit les Steelers de Pittsburgh, à 6 victoires et aucune défaite. Et puis, c'est une équipe qui joue très, très bien. C'est pas du hasard s'ils sont 6-0. Hier, ils ont eu chaud quand même parce que les Steelers ont connu une première demi exceptionnelle. Ils ont dominé un très bon club, soit les Titans du Tennessee. Mais en deuxième demi, c'était une autre histoire complètement. C'était pratiquement l'inverse. Tennessee qui avait l'avantage dans le match. Puis en bout de ligne, bien, les Steelers ont tenu le coup. Un placement raté avec 13 secondes à faire par le botteur des Titans a gardé la fiche intacte des Steelers de Pittsburgh avec un gain de 27-24. Ben Roethlisberger a fait quelques erreurs hier, surtout en deuxième demi. Il a été malchanceux un peu, des passes déviées qui se sont transformées en interceptions. Mais il joue bien, Ben Roethlisberger, qui revient d'une blessure quand même importante. Il a réfléchi à prendre sa retraite ou à revenir cette année. Il a décidé de donner un dernier coup. Il n'a plus rien à prouver vraiment. Là, il a gagné le Super Bowl, mais c'est un fighter. Puis Ben Roethlisberger, c'est un gars qui, je pense que c'est un gagnant. C'est un bon leader également. Il est bien entouré. Les Steelers ont une bonne équipe, sont bien dirigés. Je ne vous les mets pas au Super Bowl ce matin qu'on est le 26 octobre et le Super Bowl aura lieu à quelque part au mois de février. Mais pour l'instant, il faut considérer les Steelers dans la conférence américaine. Certainement, mais ils ne sont pas une tête au-dessus des autres parce qu'ils sont invaincus présentement.
Mais
là,
ils jouent bien, tu l'as dit.
Oui, oui.
En défensive, il y a T.J. Watt et il fait un job.
Très bon.
C'est une machine.
Vraiment.
Roethlisberger, dans le match d'hier, à quelques secondes de la fin du deuxième quart, mm-hmm. a pris une mauvaise décision. Les Steelers étaient en position pour un placement. Mm-hmm. Là, il y a un joueur de ligne qui a fait un hors-jeu. Ils ont mm-hmm. reculé de 5.
Oui.
Mais il y avait encore du temps pour un jeu de passe, une courte passe, puis ensuite tenter un placement, ce qui aurait mené le score à 27-7.
Ouais.
Et il a tenté une passe de fou dans la zone des buts.
Intercepté.
Je trouve que c'est ça qui a cassé le beat, moi.
Peut-être.
Puis ça s'est mis à mal aller ensuite.
Ouais, deuxième demi, c'était d'autres choses complètement.
Ouais.
Mais T.J. Watt, c'est un bon point. Puis T.J. Watt, les Steelers l'ont changé de position il y a de ça 2 ou 3 ans. Il jouait du côté droit de la ligne. Et là, il joue du côté gauche de la ligne. Alors, parce que lui, c'est un chasseur de corps. C'est un mangeur de corps arrière, ce T.J. Watt.
Je te vois venir. La majorité des corps sont droitiers.
Oui. Puis là, il dit... il dit, pour moi, c'est encore plus facile, entre guillemets. Mais maintenant, je vois les yeux du corps arrière et ça m'aide beaucoup plus à pourchasser le corps arrière que lorsque tu le pourchasses par en arrière.
Okay.
Il dit, j'arrivais des fois un petit peu trop en retard parce que je voyais pas ce que le corps arrière avait dans sa face. Mais maintenant que je le vois, puis d'ailleurs, ces chiffres le prouvent, il y a beaucoup plus de sacs du corps, il y a beaucoup plus de plaqués en arrière de la ligne de mêlée depuis que les Steelers l'ont changé de côté de la ligne.
Okay.
Puis, il est vraiment très bon. Il est meilleur que son frère. Son frère est en fin de carrière, J.J.
Ouais.
Watt et son frère. Puis malheureusement, les blessures ont eu raison de J.J. Watt, qui n'est plus du tout le même joueur, qui a été dominant quand même pendant plusieurs saisons. Mais là, T.J. Watt, qui est un ancien allié rapproché, lui, il captait des ballons au collégial,
okay.
à l'Université Wisconsin, je crois. Et à un moment donné, son entraîneur lui a dit, on va essayer ça, voir sa ligne défensive. Cette semaine, tu vas pratiquer avec nous autres en défensive. Il s'est mis à aimer ça, lui être l'attaqueur de corps arrière. Puis là, ben, il est devenu, c'est un des meilleurs de la business présentement.
J'ai une question.
Avec les Steelers.
Oui. Les mangeurs de corps arrière, là.
Oui.
Ce bout-là, c'est le casque qu'on entend?
Oui, c'est des corps arrière très maigres.
Ils font des sons aussi.
C'est ça. Okay. Ensuite de ça...
Ensuite de ça, on a fait la discussion un petit peu tantôt, je ne vais pas la refaire, là, mais on est probablement en train d'assister à la fin de la dynastie des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre.
Ça fait longtemps qu'elle est finie.
Ben non, c'est récent.
Ça fait longtemps. Là. Ça fait une dizaine d'années que c'est fini, les Patriotes.
L'an passé, ils ont eu une très bonne saison, ça n'a pas fonctionné. Puis honnêtement, sais-tu quoi? Il y a un livre qui va sortir, l'histoire va être dévoilée un petit peu plus en détail dans quelques années, là, quand les deux probablement auront fini leur carrière. Mais comment ça se fait que Brady et Belichick, leurs chemins se sont séparés comme ça?
Puis cette séparation-là, à ton pif, à toi, c'est arrivé quand?
L'ensemble de l'œuvre. Brady était tanné de se faire diriger par Belichick. Je pense que c'est l'histoire.
Ah, je pensais que tu allais me dire tu croyais qu'il y avait un élément déclencheur quelque part.
Il y en a peut-être un, puis on va finir par le savoir.
Okay.
Il y en a peut-être un moment où... t'sais, précis un peu plus là, que Brady a dit là, c'est assez, je veux plus rien savoir de cette face de cochon.
Parce que tu l'as dit il y a quelques années, parce que là, ça fait un bout qu'on est ensemble, tu disais l'entraîneur privé de Brady a semé un peu de bisbille, là.
C'est pas mauvais ta théorie. Parce mais que oui, Brady.
C'est bon, ça.
C'est bon ce que tu dis quand je te l'ai déjà dit.
C'est très bon. Oui, c'est ça. Brady est un entraîneur personnel et qui a pris beaucoup de place dans la carrière de Brady et qui a pris beaucoup de place dans l'entourage des Patriots. Ça, c'est vrai que ça n'a pas plu tout le temps à Bill Belichick. Il a comme accepté la situation parce que ça marchait pour Brady. Là, la réalité, c'était ça. Là. En bout de ligne, il y avait du succès. Mais juste pour clore ça, puis je veux dire d'autres choses aussi sur le football, mais Bill Belichick mérite beaucoup de crédit quand même pour les succès des Patriots, même si là, ça va pas bien. Puis c'est pas juste le départ de Brady, c'est un ensemble de choses, là. Entre autres, le remplaçant de Brady est pas très bon, là. Cam Newton, il joue pas bien, là. Mais c'est un corps arrière, c'est du damage good, Cam Newton. Il aurait fallu changer de nom. C'est plus le Cam Newton qu'on a connu, qui a été le joueur le plus utile en 2015 dans la NFL, opéré à l'épaule. Moi, juste à le voir avec ses ballons qui arrivent tout le temps d'un pied des receveurs. Il veut l'envoyer. Il sait qu'il faut qu'il lance à 15 verges, mais il est plus capable. Il l'envoie à 13 verges, puis c'est pas assez. Donc, tous des petits détails que Newton n'est pas loin d'être un joueur fini. C'est ça que je veux vous dire. Mais c'est malheureux, mais c'est ça.
Je comprends ton point. Mais la réalité, par exemple, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, il n'y a pas... combien il y a de clubs dans la NFL?
32.
Il n'y a pas 25 bons corps. Il n'y a pas 25 corps arrière du calibre la NFL.
Donc, il y a sûrement des gens qui vont appeler les Dolphins dans les prochains jours pour savoir si Ryan Fitzpatrick est disponible.
Dallas, ils l'ont perdu le roux.
Oui,
là.
Dallas, ils viennent de perdre leur deuxième corps arrière.
Mais comment ça a été, Tagovailoa?
Ils n'ont pas joué en semaine.
Ils ne jouaient pas, OK.
Ils pratiquent encore.
Mais ils ne peuvent pas l'échanger, Fitzpatrick.
C'est risqué.
Tant qu'ils n'ont pas vu l'autre, là.
C'est risqué.
Ouais.
Oui. Mais ils vont avoir des appels.
Mais t'es d'accord avec moi qu'il n'y a pas 30 corps partants dans NFL actuellement?
Pas du même calibre. Il y en a peut-être 10-15. Il y a des jeunes corps là, qui s'en viennent. C'est Herbert avec les Chargers, il est super bon. Tua est très, très bon. Hier, il y en a d'autres.
Hier soir, là, Murray. Et je ne connaissais pas lui.
Ouais. C'est un petit vite.
Ouais. Il était repêché au baseball aussi?
Oui.
Comme Russell Wilson. Ah ouais, je savais pas ça, Russell Wilson.
Des bons athlètes. Ouais. Des très, très bons athlètes. Donc, outre ça, les Chiefs sont 6-1. Hier, ont joué dans la neige contre les Broncos de Denver. Je vous dis les Chiefs parce que pour moi, c'est encore la meilleure équipe dans la NFL. Les Chiefs, même s'ils ont une défaite présentement, si j'avais à choisir, on est rendu à 6 semaines, puis le 26 octobre, ça, c'est encore les Chiefs de Kansas City qui seraient mon choix pour gagner le Super Bowl. Dans la conférence nationale, c'est plus complexe un peu de trouver la meilleure formation. J'aime beaucoup les Seahawks de Seattle. Hier soir, ils ont été très mauvais, en défensive particulièrement, contre les Cards de l'Arizona, qui ont une bonne équipe, mais pas une excellente équipe. Ça, c'est un peu inquiétant. Outre ça, dans la conférence nationale, la division des Cowboys de Dallas est pourrie, du début jusqu'à la fin. La meilleure équipe a seulement 2 victoires jusqu'ici, depuis le début de la saison. Mais la meilleure division de la NFL, elle se trouve dans la conférence nationale. C'est la division Ouest, où on retrouve Seattle à 5 victoires, 1 défaite. Arizona, 5 victoires, 2 défaites. Les Rams, 4-2. Et les 49ers sont derniers, mais ils ont une fiche de 4 victoires et 3 défaites depuis le début de la saison. C'est vraiment une division très, très solide, très compétitive. Le jeu de la fin de semaine, c'est un joueur offensif qui l'a fait en défensive. C'est le receveur de passe des Seahawks de Seattle hier, DK Metcalf, qui a rattrapé un joueur des Cards de l'Arizona qui venait de faire une interception à sa ligne début. Puis là, il était parti, il avait le champ libre. Il pourrait courir encore un matin. Si Metcalf l'avait pas rattrapé, il aurait passé ici devant la station parce qu'il y avait personne pour l'arrêter tellement il y avait du terrain devant lui. Un dénommé Baker. Puis le dénommé Baker, il courait. Puis il était certain d'aller marquer un toucher. Mais DK Metcalf, il a embarqué sur son cheval, lui, et il l'a rattrapé.
Ah, mais il est 2 fois plus pesant, en plus.
Très gros, absolument. Il a des gros bras.
Ouais.
Il courait à 21 000 à l'heure, Bada Baker. Fait que tu cours à 21 000 à l'heure, puis t'as le champ libre en avant de toi.
Moi, je veux juste te dire que j'abandonnerais.
Il y a personne qui va me rattraper. Ben, Metcalf est embarqué sur son cheval, comme je vous dis, il y a 22,2 000 à l'heure. À un moment donné, tu le rattrapes. 22 par rapport à 21, puis tu cours la même distance. Ben, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Metcalf a rattrapé Baker. Ça a été le jeu de la fin de semaine.
L'accident était plus percutant que la différence d'un kilomètre heure.
Oui.
Tu comprends? Quand il l'a versé comme faux.
Il était rendu, puis comme tu dis, il est plus gros, donc il l'a versé comme faux.
C'est drôle. Moi, mon point tournant du week-end à NFL, jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est un point tournant pour l'équipe, un point tournant pour sa carrière. Mm. C'est Baker Mayfield avec la passe d'une précision chirurgicale.
Il a très, très bon. C'est lui qui a permis à son équipe de faire un retour. C'est sûr. 5 passes de toucher pour Mayfield, dont le toucher gagnant à la fin du match.
Ça lui fait quoi?
5 passes de toucher. 5 victoires, 2 défaites, les Bruns.
Ouais. Ils sont dans les séries, c'est sûr.
Ils seraient dans les séries présentement, oui. Mm-hmm. Oui, okay. Ils sont bien partis. Anthony Auclair n'a pas joué. Finalement, les Buccaneers lui ont donné une semaine de plus de repos. Et parlant des Bucs, bien, ils ont mis sous contrat Antonio Brown. Ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas où on s'en va avec ça, avec Antonio Brown. Je trouve qu'il y a plus de risques. Il y a trop de risques par rapport à cette signature-là. C'est un drôle de moineau qui va arriver dans le vestiaire, qui va prendre la place d'un autre joueur là qui joue depuis le début de l'année. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça fait quelques saisons qu'il joue à peu près pas. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution? Il court encore très
vite. C'est un call de Brady. Là.
C'est sûr. Ça, c'est certain que c'est Tom Brady.
Tom Brady a dit, je veux ce gars-là.
Oui, parce que le coach, Arians, avait critiqué Antonio Brown l'an passé quand on lui a posé la question. Brown est disponible, ça t'intéresse-tu? Il avait dit non.
Il l'a déjà coaché, je pense, à ce moment-là.
Oui, il connaît le moineau. Ouais. Ça ne l'intéressait pas du tout. Il va être obligé de l'endurer pareil. Là.
Ouais, c'est ça.
Il arrive dans le vestiaire. Donc, je suis pas certain de cette signature-là.
Good. C'était l'essentiel, donc, pour les nouilles.
Les nouilles
les nuls. Les nuls. Voici la chronique. C'était la chronique de la NFL avec Ray Cloutier. On veut voyager, hein? On a hâte de voyager. Mais on va en parler avec Julie Théberge du Club Voyage Montmagny et Saint-Jean-Chrysostome dans un instant.